C'est plutôt ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous avez compris dans l'atelier ? Moi, en l'écrivant, j'avais une idée derrière la tête, ça c'est clair. Et puis, ben vous, vous avez quoi comme idée ? Ça fait écho à certains points. Moi, je l'ai écrit de façon un peu provocatrice. Ça, c'est mon truc. Mais voilà, est-ce que vous avez des réflexions déjà maintenant, des questions, des attentes ? Comme ça, au moins, on pourrait... Ça, et puis peut-être pour vous rassurer aussi, je ne vais pas faire une conférence et un speech sans arrêt. D'abord, j'aurai un peu de mal pour l'instant, mais c'est plutôt de qu'on soit interactif. Si vous avez des questions sur certains points, il faut arrêter. Il faut le dire, voire vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Voilà, donc c'est... Il n'y a pas photo, c'est pas grave, moi je ne suis pas susceptible. Pas encore, donc j'ai encore mordu personne. Donc ça va bien. Donc est-ce que vous avez des attentes déjà maintenant ou est-ce que vous préférez les dire au fur et à mesure ? C'est vraiment, vous sentez libre. Hein. Non, je ne sais pas faire un mot. Pas faire un mot, d'accord. Et puis, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais un peu rapidement. Vous pouvez trouver des informations sur mon site professionnel. Donc je fais ce qu'on appelle du marketing non marchand. C'est un peu un pléonasme ou un paradoxe. C'est-à-dire que le marketing a toujours été défini comme étant un outil de vente. Et j'estime que si on se base sur la Bible, il n'est jamais un outil de vente. Mais c'est un outil de relation. La société a développé à partir des années 50 un certain marketing qui était un marketing de production où l'industrie était le centre de l'économie. Et dans les années 70, on a commencé à parler de profit et dans les années 80, d'économie financière. Donc on est dans le virtuel. Aujourd'hui, le marketing, à la limite, ne sert plus à grand-chose. Si ce n'est que de légitimer une certaine forme de vente et une certaine forme de consommateur. Sous-entendu, vous n'êtes plus des consommateurs, nous ne sommes plus des consommateurs, mais nous sommes des objets de ressources pour une économie financière virtuelle. C'est-à-dire que le panier de la ménagère est défini, ou les produits de première nécessité, comme le blé, est décidé par des ordinateurs, notamment à Genève, et ce qui fait qu'il y a des gens qui crèvent de faim en semant du blé. Donc, et c'est ça l'économie aujourd'hui. Elle est partie du marketing au départ. Et c'est ça qui pose un petit souci. Donc je vais vous parler un peu de ça, parce que quelque part, donc pour vous expliquer d'où je viens, métier d'origine c'est architecture. Je me suis converti dans la rue, j'étais bouddhiste, hippie à l'époque, cheveux longs, longue robe, pieds nus. Je ne fumais pas de joint, mais j'avais un look particulier, longue robe, longue barbe. Imaginez. J'ai tout brûlé quand je me suis converti, donc tout. Mes vêtements, tout. Enfin, bref, voilà, ça c'est une petite histoire. Mais donc après, je vous raconte assez rapidement, mais. J'ai été à plein temps dans le ministère comme évangéliste de rue pendant 15 ans. Et puis, entre-temps, j'ai refait un métier dans la pub, dans la publicité par l'objet. Ensuite, j'ai été directeur d'agence de pub, de deux agences de pub sur Paris. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai refait un autre métier qui est le marketing. Et donc, j'ai fait une formation et puis j'ai été directeur d'agence. Ensuite, j'ai été consultant international. Après, je me suis associé avec des Américains, Australiens, Anglais. Et puis, j'avais une agence qu'on appelait du fundraising, donc une collecte de fonds numéro un mondial, donc 180 salariés, etc. Puis, moi, j'en ai un peu marre. Je n'aimais pas ça. C'est pas mon métier, chef d'entreprise. Donc, je suis plutôt créatif. Et donc, j'ai remis... un peu tout ça, et puis je suis redevenu consultant, et maintenant je fais beaucoup de travail de formation. Donc je fais des formations en université, France-Suisse, mais j'essaie de terminer des livres, dont un qui est sur l'économie et la guérison. Donc, aux éditions Jouvence, ça devait sortir mois dernier, mais comme j'ai eu un petit souci de santé, donc je dis pas ça pour m'excuser, mais j'ai parfois un petit cheveu sur la bouche. J'ai pas, j'en ai plusieurs d'ailleurs, parce qu'on m'a greffé un morceau d'ici sur la langue. Voilà, j'avais un cancer qui guérit, j'ai plus rien. Je ne devais pas parler encore pendant 3 mois, je parle depuis 1 mois. Donc voilà, ça a contrarié sur rien, mais moi je suis bien content. Et il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi. Donc, et plus de 300, j'ai compté hein, à peu près. Et c'est vraiment une force. Je peux vous dire que la prière de la foi est une force. Pas la prière, oh le pauvre petit, il a un cancer, etc. Ça ne m'intéressait pas. Mais vraiment de la foi. Où une parole m'avait touché quand le médecin m'a dit que j'avais un cancer. Il m'a dit, ça va, prenez pas mal. J'ai dit, non, pourquoi? J'ai dit, ben, c'est un cancer. Ben, je dis, oui, alors. J'ai dit, mais c'est quand même grave, vous savez, vous pouvez perdre la voix. Peut-être. Il m'a dit, vous faites ça, moi je crois autre chose. Donc, ah bon, quoi il croit? Ben, je crois que Dieu peut faire quelque chose et même toucher la main des médecins. Oui, c'est vrai, chacun son point de vue. Oui, ça, c'est le mien. Donc, je pars là-dessus. Donc, j'ai confiance en vous, mais en Dieu aussi. Et puis, il y a des gens qui prient pour moi. Et donc, j'ai raconté, quelques-uns, peut-être parmi vous, ont reçu des emails que j'avais envoyés. Donc, je vais probablement sortir un petit livre. Donc, mais tout ça pour vous dire que, ben voilà, Dieu agit. C'est bizarre, hein, mais comme une amie qui me dit, mais c'est incroyable, il faudrait que j'arrête de dire ça. Non, c'est croyable. Voilà. Donc, je suis un miraculé. Voilà, bon, ceci, c'était pas pour m'excuser, mais c'est la troisième fois que je parle en public. Hein. Depuis que je sors de l'hôpital, je parlais une fois à la radio suisse romande, quand ils m'ont dit, donc, voilà, j'ai parlé, apparemment, ils n'ont pas entendu qu'il y avait un petit cheveu sur la bouche. Ensuite, j'ai parlé de donner un cours marketing à l'université de Neuchâtel. Apparemment, ça a été aussi 2 heures. Et là, maintenant, bon. Alors, mais bon, comme je suis bavard, c'est incroyable, parce que je suis obligé de parler plus lentement. Donc, alors, tous les Suisses m'ont dit, mais c'est superbe, enfin, de comprendre. Alors, bon... Je suis content que vous allez comprendre un petit peu. Donc voilà très rapidement mon parcours professionnel. Donc je suis en Suisse, je suis français d'origine, nul n'est parfait, désolé. Donc je suis depuis 12 ans en Suisse, donc j'habite entre Lausanne et Yverdon, à Chapelle-sur-Moudon. Très joli coin. Où avec ma femme, on a acheté une maison pour faire une maison d'accueil aussi. Voilà, mais... Ce que je développe ici, ce que je vais vous développer, je ne sais pas si on aura le temps de tout partager, mais, comment dirais-je, l'approche que j'ai, elle est basée un peu sur un ensemble de crises qui existent aujourd'hui, dont tout le monde connaît. Et je vous en cite 8. Mais ces crises-là, comment dirais-je, vous allez les comprendre, bien sûr, parce que vous allez les traduire de façon biblique, mais j'aimerais bien que vous oubliez un peu la Bible aujourd'hui. Dans le sens où on essaie de comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire dans nos tripes. Lorsque je parle à la radio, ou même quand je prêche dans différentes églises, j'essaye toujours de parler comme si j'avais un public de radio. Que je ne connais pas, que je ne vois pas, et je ne sais pas ce qu'ils m'ont demandé. Parce que ce n'est pas de la communication, la radio, hein, c'est du monologue. Donc il faut arriver à connecter avec ces gens-là. Donc on est dans une société qui a un certain nombre de crises, mais ces crises, on peut tout à fait les détecter et les définir avec des mots séculiers. Et dans ce sens, on va rejoindre les gens. Et ce qui est assez curieux, c'est que si vous entendez un journaliste, vous, c'est-à-dire nous, en tant que chrétiens, à la télé, on va le comprendre. Mais si on entend un journaliste chrétien à la télé, personne ne le comprend. bien stucler. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on ait un langage qui soit accessible. Et c'est ce qu'a fait Jésus avec les paraboles. Il n'a parlé que d'économie. Si vous lisez bien, c'est que des leçons d'économie. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a parlé, en fait, de certaines crises. Donc, ces crises, donc individuelles, collectives, on est dans une société donc mondialisée, hein, où plus le monde s'est développé, plus on a spécialisé les choses. J'explique. C'est-à-dire que moi, j'avais un cancer, j'étais dans le service ORL au CHUV, mais j'avais 8 médecins, 8 spécialistes, pas un me connaissait. Donc c'est sûr, on a globalisé le service, on a, je dirais, rentabilisé le service ORL, mais du coup, on a spécialisé les gens pour optimiser l'investissement. Donc, je ne vais pas dire que je suis contre la mondialisation, mais la mondialisation a créé l'individualisation et a créé la spécialisation. Et c'est ça qu'il faut être extrêmement prudent. Je ne peux pas développer tout, mais j'espère être clair. Ensuite, crise de fidélité. Alors, pas forcément la fidélité dans un couple. Ça, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. Mais on est dans un... On a été cultivé par une économie de consommation, pas de marché, mais de consommation, où on devient des citoyens consommeurs, zappeurs, travailleurs. C'est-à-dire que tout est basé sur le zapping. La notion de carrière disparaît de plus en plus. Hein. J'ai fait 15 ans de carrière dans ma boîte. Aujourd'hui, c'est vous donner un zombie, un extraterrestre. Hein. C'est 3 ans, 4 ans maxi. Parce que votre carrière, c'est multiplier les expériences pour être un jour patron avec un parachute doré un jour. C'est un peu ça. C'est-à-dire que la notion de fidélité à un produit est aussi extrêmement volatile maintenant. C'est-à-dire que vous voyez, comment dirais-je, j'ai eu une fois une émission sur l'iPad d'ailleurs, quand il est le premier sorti, je dis, je vous garantis qu'à d'ici un an, on aurait 3-4 autres qui vont arriver. Et ça n'a pas raté. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que le produit ne soit pas finalisé, pour vous obliger à acheter le meilleur une autre fois. Et donc on est dans une économie un peu particulière, ce que j'appelle, moi, l'économie totalitaire. C'est-à-dire, on reprochait d'être dans des politiques totalitaires. Il y en a encore. Mais aujourd'hui, on est dans une économie totalitaire. C'est-à-dire que dans les années 50, les entreprises ont dit, mais il faut vraiment nous libéraliser. C'est-à-dire qu'il faut être dans une économie libérale. Et ce qui est bien, l'économie libérale, chacun a le droit de faire engager, de faire ce qu'il veut. Mais l'économie libérale a fait que, de plus en plus, c'est l'économie qui a commencé à dominer le politique. Et en dominant le politique par l'argent, le politique était soumis à l'économie. Or, aujourd'hui, le politique n'est plus soumis à l'économie, il est soumis à la finance. Et qui gère aujourd'hui le monde ? Ce sont les actionnaires des banques. Ce n'est pas les banques, c'est les actionnaires des banques. Et donc, l'économie totalitaire, ça veut dire qu'on vous oblige à acheter tel produit, à tel moment, à tel coût, de telle façon. C'est-à-dire, comme par exemple l'avion, pas cher, EasyJet, vous ne pouvez pas commander un billet sans Internet ou sans votre carte Visa, me semble-t-il. Et puis, il vous a imposé une modalité d'achat. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être performant. Pourquoi performance ? Pour avoir un maximum de marge avec un minimum d'investissement. Donc, en fait, quand on parle de low cost, pas cher, en fait, vous payez extrêmement cher. Parce qu'ils ont une marge phénoménale par rapport à ce que vous payez. C'est assez curieux qu'aujourd'hui, avec 70 francs, vous allez presque au bout du monde, et qu'à une autre compagnie, vous payez 3000 francs. On peut m'expliquer le truc, là. Et qu'actuellement, c'est EasyJet qui prend de plus en plus ses parts de marché. Là, il y a un truc.
Et puis, qui gagne des sous.
Et ils gagnent des sous.
Là, c'est pas compréhensible.
Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, on a cru pendant un temps que c'était le phénomène de consommation, d'achat, c'est-à-dire à perte. C'est-à-dire, ça a été le principe des grandes surfaces. Hein. C'est-à-dire qu'ils vendaient du pain, ou etc., à perte, mais le volume faisait qu'il développait de la trésorerie, puisque le pain, il l'achetait à une entreprise, mais ils le payaient à 30 jours ou à 60 jours, et vous, vous le payez cash. Donc ils avaient 3 mois d'avance de trésorerie. Ils investissaient, ils gagnaient de l'argent sur la trésorerie. En fait, les grandes consommations, c'est une banque. Et vous leur donnez de l'argent pour gagner des sous. Parce que là, il est très très rare qu'une grande surface fasse une marge sur les produits. Très très rare. C'est qu'en fait, du fait que vous vous payez cash et que négocie 30, 60, voire 90 jours pour payer une entreprise, parce que là, on est dans la relation industrielle, on est dans un système qui est totalitaire. C'est-à-dire que vous n'avez plus le choix d'acheter autrement que ce qu'il vous impose. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on parle de tout-performance, on parle de croissance aussi. Ça, c'est un gros mot que je n'aime pas du tout. Et donc, j'expliquerai peut-être plus tard, mais le moyen de réagir, c'est de résister. Ce n'est pas de contester, c'est de résister et de proposer autre chose. Ensuite, on a la crise des partis. Des partisans pour le pouvoir et sans autorité. Hein. Donc, je trouve que ce temps ici, ces 3 jours, est un vrai miracle, et j'espère que ça va s'étendre. De voir différentes tendances chrétiennes, pas toutes, mais au moins dans le protestantisme réuni, où il y a des pour et des contre le Saint-Esprit, des pour et des contre avec des chaussures, des pour et des contre applaudir ou pas applaudir. Et ça marche bien et on est ensemble. Et j'ai trouvé encore ce matin, ou hier, je ne sais plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est Jésus qui nous touche et ce n'est pas notre packaging qui fait qu'on est ensemble. Donc il y a quelque chose qui change. Donc, pourquoi ? Parce que c'est l'esprit de parti. Et l'esprit de parti, alors ça c'est mon point de vue, il y en a quelques-uns qui le connaissent, je suis contre les partis chrétiens. Mais ça c'est mon point de vue. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas selon, pour moi, Éphésiens, hein, les fruits de l'esprit, il y a l'esprit de parti. Et l'esprit de parti suppose un contre. Je suis pour, je suis contre. Moi, j'ai des amis qui sont socialistes, communistes, centristes, verts, extrême droite. Je parle avec tout le monde. Ils ont du mal à me classer. Ils disent, viens dans notre parti. Mais pourquoi ? Ils disent, on sera plus fort ensemble. Je suis plus fort tout seul. Et pourquoi ? Ben parce que tu viens me chercher. Et il dit, pourquoi tu viens me chercher ? Ah, mais tu as des idées intéressantes. Et ben pourquoi voudrais-je que je te les donne à toi ? Pourquoi pas à l'autre ? Ah ouais, mais l'autre, il dit, non. Moi, j'aime tout le monde. C'est-à-dire que c'est déjà un paradigme. Hein. On est dans des crises. Et ces crises de parti, en plus, on ne s'en cache pas, on le dit. On vote pour que les gens aient le pouvoir. Alors le plus gros... Les sketchs qu'on voit dans la politique, c'est en France. Hein. C'est vraiment les guignols qui cherchent le pouvoir. Quoi. Moi, je trouve ça très amusant. Quoi. Et en même temps, ils prennent le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Hein. Pour moi, le vrai pouvoir, c'est une autorité reconnue. Et tu as l'autorité, donc je te donne le pouvoir. Aujourd'hui, on prend le pouvoir et accessoirement, j'ai une autorité. Alors, Jésus avait le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il parle avec autorité. Et cette autorité est donnée de Dieu, donc pouvoir. Donc pourquoi la crise des partis ? Parce que du fait qu'on n'a plus de pouvoir, on va s'entourer de gens pour faire pression ou faire du lobbying pour changer les choses. Et je dirais que ce n'est pas, pour moi, une bonne approche. Ensuite, on a la crise financière, il faut que j'aille un peu plus vite, la crise des valeurs. Donc sans fondement, sans humanité, sans identité. On dit souvent, quand j'interviens dans des conférences séculières, on me dit, mais vous êtes un humaniste. Je dis, oui, je suis un humaniste. Et puis certains chrétiens disent, oulala, humaniste, etc. Mais ils disent, oui, je suis humaniste, bien sûr. Et je suis chrétien aussi, oui, bien sûr. Et je dis autant la même chose. C'est-à-dire, je suis humaniste parce que je crois que l'homme aussi est foncièrement bon. Dieu n'a pas créé méchant. Mais il cherche aussi. Mais il n'a plus d'humanité. C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît plus lui-même. Il est un objet de ressources, il n'est plus un être humain. Donc, ces crises des valeurs, l'être humain, on parle de genre, vous avez entendu parler de ça, je suppose, la crise des genres. On ne dit plus homme-femme, maintenant, vous êtes un genre. Et c'est à vous de choisir si vous serez un jour un homme ou une femme. Enfin, c'est fou, quoi. Je ne dis pas que c'est mauvais l'idée du genre. Parce qu'en soi, pourquoi pas. Mais ce qui montre qu'on n'a plus de valeurs, c'est-à-dire de référents sur lesquels on peut dialoguer. On n'est plus rien, on a un genre. Donc, et sans fondement, ben justement, il n'y a pas de repère. Et sans identité, bien sûr. Et donc le repère chrétien, aussi biblique, a disparu aussi. La crise financière, donc on le sait, c'est une économie virtuelle qui domine l'humain. Hein, donc la crise financière, c'est vraiment c'est l'argent qui existe sans exister. Ça, vous savez ça, hein, c'est la bourse, c'est ça. Je ne sais pas si vous savez, donc tous les flux boursiers, il n'y a pas un être humain qui gère. C'est un ordinateur qui avance à la vitesse de, je ne sais pas si c'est 10 fois la vitesse de la lumière. C'est que dès qu'il y a un ordinateur qui dit zut, l'autre il va dire non, bah, c'est pas toi, c'est moi. Enfin bref, tout de suite, mais en une fraction de seconde. Et ça dans le monde entier. Et donc quand on dit qu'il y a une attaque de la bourse, et puis où tout d'un coup il y a une inflation, etc., tout ça c'est fait par ordinateur. Il n'y a pas un être humain qui gère ça. Donc quand il y a une crise boursière, c'est l'ordi qui fait ça. Et de temps en temps, il y a un être humain qui touche. Mais c'est tout. Il y a qu'à voir les places boursières, il n'y a plus de bonhomme, il n'y a plus que des écrans. Et la place de la bourse, vous savez, un homme qui gère, voir si les lumières sont toujours allumées. Mais le grand patron de la banque, la BNS, le dit lui-même. Enfin, l'ancien patron le dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'informatique, donc de la performance. Nous ne savons pas, aujourd'hui, écoutez bien, nous ne savons plus gérer notre planète. Elle est gérée par un ordi. C'est quand même grave. Hein? Donc, crise financière. Alors, pourquoi il y a eu des crises financières? Ben, les subprimes, notamment aux États-Unis, l'histoire des fonds de placement immobiliers, c'est qu'à un moment donné, un ordinateur, il a fait une connerie. Mais vraiment. Et puis comme il n'y a personne qui avait imaginé sa bêtise, l'autre, il a réagi en disant « il faut que je me défende ». Et donc il s'est défendu. Donc il y a eu inflation. Enfin bref, les actions ont été vendues. Puis le résultat, les gens étaient obligés de vendre leur maison parce qu'ils n'avaient plus de sous. Mais pourquoi ils n'avaient plus de sous? Ben, parce que l'ordinateur a dit « t'as plus de sous ». En gros, c'est un peu ça. Donc voilà l'économie virtuelle. Et donc donc c'est, alors on va dire, ah c'est le démon, c'est le diable, peut-être, mais c'est, pour moi c'est surtout une connerie. Quoi. donc c'est autant je crois que l'esprit de Mammon dirige, ça je crois, mais autant aussi que l'esprit de profit domine aussi. Et l'esprit humain, il y est pour beaucoup. Donc il ne faut pas diaboliser tout le temps les choses, mais je crois aussi qu'il y a une manière de redonner un peu de bon sens, dans l'économie. Un manque de vision, c'est ce que je disais une fois à une femme politique, c'est qu'on manque de vision, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quel est le projet, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis enfin, on vient de l'entendre ce matin, la confiance. C'est, j'ai fait une conférence une fois là-dessus, une émission de radio, suite à la fin 2008, après la première crise financière, économique. J'ai dit la plus grave crise qu'il y a actuellement, c'est la crise de confiance. Et quand je parle d'une crise économique, mais en fait c'est une crise sociétale, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Comment dirais-je quand vous avez j'ai entendu à la bourse, les investisseurs ont perdu confiance. La bourse chute. Les élections en France, je crois que c'était Sarkozy, mais les deux d'ailleurs, et puis Hollande disait nous voulons regagner votre confiance, etc. Mais c'est tout est comme ça. Mais c'est quoi la confiance? C'est la foi. C'est la foi. Et alors maintenant, on revient là-dessus. Vous avez des versets de la Bible à chaque fois, dedans, comme réponse. Un peuple sans vision est un peuple qui périt. Si tu crois, tu verras. Hein? Ou comme Jésus à la femme adultère. Il a eu confiance en cette femme. La crise des valeurs, la crise des partis, où Jésus était contre aussi les partis religieux. Donc il expliquait que vous avalez un chameau, vous avalez le chameau, mais vous ne voyez pas la poutre dans l'œil. Donc l'économie de marché, Jésus parle beaucoup de l'économie, le principe de l'économie, ce que j'enseigne, c'est le don. C'est le principe de la multiplication et non pas de l'addition. C'est-à-dire que dans l'économie aujourd'hui, on additionne plus. J'ai plus d'actions, j'ai plus d'heures supplémentaires, j'ai plus de marge, j'ai plus, etc. Le principe de l'économie de marché, selon Jésus, c'est si tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes un grain, t'en as 100. Mais il faut le semer en bonne terre. C'est ça. Mais tu peux semer en mauvaise terre. La parabole du semeur, c'est qui sème. Tu n'es pas en train de regarder où tu n'es pas un bon chrétien. Non, il sème. Et puis, il y a un grain qui tombe dans le chemin, un autre dans la mauvaise herbe, dans la pierre, puis un sur la bonne terre. Il sème. Et c'est ce principe de l'économie selon Dieu. Ça va jusque-là ? Je vais vous donner quelques clés assez rapides du royaume de Dieu dans une économie de marché. Je vous assure que je pratique ça. Je travaille actuellement pour une société de cosmétiques de haut de gamme en France, 150 points de vente, des produits très chers, de luxe, et j'applique ça. J'applique les clés du royaume de Dieu.
C'est pour ça.
Et ça marche. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'après les gens, ils veulent prier. Les gens, ils veulent prier après. Ils veulent parler de Jésus. Je dis, écoutez, je ne suis pas là pour ça, moi. Mais sérieux, je vais vous expliquer une petite histoire après. Mais demandez, vous recevrez. C'est quoi ça ? Une pub ? Vous voyez une pub, oui. Frappez à la porte, demandez est-ce que vous pouvez me donner à manger ? Oui, non. C'est le principe, c'est le fait de demander. C'est la pub. Chercher. Chercher, c'est de la recherche, c'est de l'analyse. On a dans les entreprises ce qu'on appelle les services de recherche et développement. Alors pourquoi ils font recherche et développement ? Parce qu'ils savent que s'ils cherchent, ils vont trouver. Donc c'est quoi ? C'est une clé du royaume de Dieu. Alors, il est croyant ou pas croyant ? On s'en fout. Parce que c'est une clé du royaume de Dieu. Et c'est quoi le royaume de Dieu ? C'est le monde. Le monde ne fonctionne pas sans le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et quand on dit, je ne suis pas, dans le monde, je ne suis pas du monde, mais je dis, moi, je suis du monde. Heureusement que je suis du monde. Il faut que je sois dans le monde. Si je n'étais pas du monde, mais qui jugerait, moi ? Je serais en dehors du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Le royaume de Dieu, il est où ? Il est
ici. Là où vous êtes.
Parmi vous, il est là. Donc il est où ? Il est où ? Cherchez-le. Non, il est là. C'est ça. C'est ça. C'est... Une fois, dans une émission radio, hors antenne, c'est pas tout du entendu ça, peut-être. Hors antenne, on avait parlé de. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, on parle de la foi, je sais plus quoi. Et puis, sur une émission économique. Hein. Puis, journaliste, je vous dis pas son nom, mais journaliste, il me dit ouais, mais tu sais, moi, la religion, j'ai vachement du mal. Je dis moi, j'arrive pas du tout à la religion. T'étais protestant, je crois en Dieu. Ah, c'est la religion, je dis non. Ah bon, mais c'est quoi ? C'est la foi. Qui est comme toi, j'ai autant la foi que toi. Tu rigoles ou quoi ? Je dis, mais je me demande même si t'as pas plus la foi que moi. Il y a tout, n'importe quoi. Et puis je dis, écoute, tu fais ça tous les jours. Je sais pas moi si j'y arriverai. Tous les jours, tu parles à un micro. Donc, il y a un bout de bois, un bout de métal. Je ne sais pas comment tu fais, tu parles au micro. Puis, il paraît qu'en parlant là-dedans, il y a des millions de gens qui t'entendent. Tu as vérifié ? Ben non, on me l'a dit. Donc, tu as la foi. Et etc. Donc, je parle pas mal d'exemples sur ce qu'il fait à la radio. Donc, la confiance fait partie de la vie, comme le royaume de Dieu fait partie de la vie. Moi, je n'ai pas à chercher à ce que les gens deviennent chrétiens. Je dis, à la limite, pour exagérer presque, quoique, tout le monde est chrétien. C'est-à-dire, tous sont enfants de Dieu. Il me semble. Ce n'est pas des enfants de Satan qu'on a dans le monde. Avant que vous soyez chrétien, vous étiez enfant de Satan ou enfant de Dieu ? Si je suis radical, enfant de Dieu. Mais seulement, vous n'avez pas connu le Père. Donc, vous êtes enfant prodigue. Donc, soit enfant prodigue, a besoin de savoir qui est le Père. Donc, on est dans des notions qui sont complètement, je dirais, incarnées dans la société. Et on le vit. Mais seulement, il n'y a pas eu ce lien entre la vie que j'ai et l'auteur de cette vie. Il faut faire un lien. Mais ce lien, c'est cette clé. Donner et un autre. Vous connaissez cette phrase, Jésus dit, donner et vous recevez. C'est abandonner sa richesse, c'est semer. C'est le principe de vivre dans la multiplication. J'étais une fois dans un, en Suisse allemande, je ne parle pas Suisse allemande, il y avait une entreprise industrielle dont le patron était chrétien, il m'avait entendu une fois en Suisse romande, et puis il me dit, écoute, j'ai une boîte assez importante et j'ai des commerciaux, ils n'arrivent plus à vendre. Est-ce que tu pourrais les former dans la journée? Donc, j'ai fait une journée de formation. Donc, comment vendre? Et la première question que j'aurais posée, il dit, qu'est-ce que vous donnez? Ils m'ont regardé avec des gros yeux, le directeur commercial, il me dit, le patron du chrétien, il ne comprenait pas. J'ai dit, attendez, j'ai un voisin paysan, je raconte ça, il venait de mettre des patates depuis un certain temps, et puis je le vois assez souvent, et puis il me dit, les patates, elles vont vachement donner. Et ah bon, pourquoi? Ben, je dis, parce que j'ai tout donné. Et je dis, pourquoi t'as donné? Ben, parce qu'elle est faite pour me rendre. Mais comment elle va te rendre? À la mesure que j'ai donné. Je dis, plus tard, quelle leçon d'économie. Il parle que du don. Il parle que du don. Mais seulement, nous, on parle du don dans le sens chrétien. Ben, je donne aux pauvres, tout ça. Moi, je donne jamais aux pauvres. Mais, je vous expliquerai après pourquoi. Mais donner, c'est abandonner sa richesse. Je dirais que c'est, dans un sens, c'est ça, mais c'est faux. C'est pas abandonner sa richesse. C'est tout faire pour que ma richesse se multiplie. Ouais, vous voyez, puisque si je donne et si je sème dans de la bonne terre, ça va se multiplier. Donc, le bon gérant, selon la Bible, c'est qu'il est riche. Et il sème, il fait en sorte que sa semence soit bien plantée. Donc, tout donner. Tout donner pour que sa richesse se multiplie. Il s'enrichit les autres aussi. Ça, c'est de l'économie. C'est de l'économie. C'est, alors, j'ai envie de dire, c'est du communisme, non? C'est du capitaliste communiste. Le principe de la multiplication dont je vous parlais, donc celui qui donne reçoit, c'est le contraire de l'addition. Et oser, c'est que on ne peut rien faire sans la foi, donc la notion de la confiance. Donc moi je dis jamais aux gens qu'ils n'ont pas la foi, c'est pas vrai. Je dirais que c'est un, je vais dire presque un péché de dire aux gens qu'ils ne sont pas croyants. Et tout le monde est croyant. Mais ça dépend à quelle mesure et en quoi, ou en qui. On ne doit pas éveiller la foi aux gens. Ils ont la foi. Quand vous tournez la clé de la voiture, vous attendez à ce qu'elle explose ou quoi? Non, vous avez la foi qu'elle va rouler. Prenez un café. Un café, monsieur, vous allez regarder s'il n'y a pas de la nitroglycérine dedans. Non. À la Migros, vous prenez de l'eau, vous ouvrez les bouteilles, toutes les bouteilles, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose de dedans, de bon? Non. Tout le monde fait ça. Donc la notion de la confiance fait que je vais acheter des choses sans les vérifier. C'est ça la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Ok, voilà. Donc on fait, qu'il soit fait selon ta foi. Tu crois que la bouteille c'est de l'aignée, tu prends de l'aignée. Mais tu ne prends pas de l'évian. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un principe économique aussi. Donc le fait d'oser, c'est de croire, et croire sans vérifier. Donc si on arrive à travailler de cette façon dans une entreprise et dans l'économie, ça change tout. Donc les business plans, quand on en fait, on va baser les business plans sur le fait de croire. C'est-à-dire, quelle est ma vision, de quelle façon je la fais. Or, souvent, quand on n'arrive pas à se développer, on ne va pas faire un business plan selon un gestionnaire ou un investisseur, mais selon un comptable. Je ne donne que ce que j'ai. Et comme je n'ai pas beaucoup, je préfère garder ce que j'ai. Or, Jésus dit à ce genre de personnage... En prenant l'exemple de la veuve, elle a tout donné, même elle a donné le maximum, c'est-à-dire tout, le nécessaire. Donc, elle s'est enrichie. Ensuite, investir dans le riche et non dans le pauvre. Alors, pourquoi je dis ça? Je ne donne jamais aux pauvres. J'aide le pauvre, mais je ne donne rien. Parce que s'il est pauvre, c'est de sa faute. C'est un peu dur. Mais par contre, l'indigent, la personne qui est en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, pendant un temps, ça, il faut aider. L'orphelin, il faut l'aider. La veuve, il faut l'aider. Parce que ce sont des situations qu'ils ont subies. Ce sont des situations passagères. Est-ce que si un jour, je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être pauvre ou d'avoir été mis dehors de votre maison, moi ça m'est arrivé, vous avez un sentiment de malaise, c'est que tout d'un coup vous êtes dans un nouveau statut de pauvre et vous ne bougez plus de ce statut. Vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous êtes un Suisse citoyen moyen, etc. Et donc ce qui fait que si je donne aux pauvres, ça veut dire que je cultive le pauvre. Mais si je donne à celui qui a une pensée de riche, il s'enrichit. Je donne souvent cet exemple. Vous avez deux clochards devant vous. Vous donnez 100 francs à chacun. Vous revenez le lendemain. Il y en a un qui est parti, l'autre qui est en train de boire du vin avec, grâce à ça. Vous demandez à celui qui est là, qu'est-ce qu'il est devenu ? Ben, il est fou, il est parti chercher un costume ou un vêtement pour trouver du boulot. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je reprends même les bouteilles de pinard que je revends. Et je te dis, je ne te donnerai plus jamais un centime. Et je vais le donner à l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre a cru et a pris mon investissement. Et c'est ce que dit Jésus. Celui qui croit en moi sera sauvé. Donc, le principe de la richesse doit être basé sur celui qui croit et non pas celui qui est ou qui n'est pas pauvre. On s'en fout qu'il soit pauvre ou pas pauvre. C'est notre mentalité qui est importante. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop les socialistes ou les communistes. J'ai des amis. Parce qu'ils cultivent cet esprit-là. Hein, cette notion de pauvreté. Ah, mais oui, mais nous sommes socialistes. Sous-entendu, les gens de droite sont des salauds. Alors, on pourrait dire oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pour autant aussi bien. C'est un extrême contre un autre. Mais je dirais que c'est le... Il me semble que ce que Jésus nous enseigne dans l'économie, c'est que celui qui est faible dise qu'il est fort, que celui qui est pauvre, Dieu va l'enrichir. Si tu sèmes, tu récoltes, etc., etc. Donc, si tu donnes, tu recevras. Mais sauf tous ces enseignements, ce n'est pas fait pour les pauvres. Hein. Les pauvres, tu restes pauvre. T'es idiot, tu restes idiot. C'est ça que ça veut dire, non ? Donc ça veut dire qu'on est dans une communauté ou une société qui doit être riche. Moi, je crois à la richesse et la propriété. Deux éléments qui font qu'une économie dans un pays se développe. La richesse et la propriété. Et à la mesure où la personne est propriétaire d'un bien, elle entretient son bien. Si tout le monde a des biens, elle entretient son pays. C'est aussi bête que ça, pour moi. Donc il a une maison, du jardin ou une forêt, et bien chacun va entretenir sa propriété. C'est exactement comme une mère qui va prendre soin de ses enfants. Et donc c'est pour ça que la propriété est quelque chose d'important. Donc, et ce qui est bizarre, c'est que quand en Suisse vous êtes propriétaire, vous êtes vraiment imposé, quoi. Vous voyez ? Donc finalement, c'est les banques qui sont propriétaires.
J'ai une réflexion.
Oui.
En même temps, quelque part, en nous ou dans les individus, il y a toujours quelque part, dans un domaine ou dans un autre, on peut être pauvre ou orphelin, ou on a besoin que quelqu'un investit, parce que c'est un domaine de notre vie qui n'a pas pu grandir à cause de... Tu vois, si on décortique l'individu, on prend une globalité, mais des domaines spécifiques dans sa vie, je ne sais pas... Ça.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'il disait ce matin, on n'a pas eu confiance en moi. Et donc, quelqu'un investit en lui, dans cette confiance. Donc, il a dit, je crois en toi, je vais investir en toi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette souffrance qu'il avait, ce manquement qu'il avait, cette pauvreté qu'il avait, quelqu'un lui a dit, je crois en toi. Donc, je te donne du temps. Donc, j'investis en toi et je vais... m'investir en toi, mais dans le sens que je sais que ça va réussir. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'il a expliqué la multiplication et l'efficacité de son don. Et c'est vrai que ces principes-là, vous les appliquez même au niveau de l'individu. Hein. Donc, aimer et vérité, notamment, je vais me dire ça, on ne peut pas aimer son prochain tout seul. Hein. Donc, j'ai fait 2 ans de politique en France, une petite municipalité, une petite commune, mais Puis, je n'étais pas dans un parti, je n'étais pas tout seul, mais presque. Et l'autre parti a gagné. Puis il vient me voir, il dit, on a gagné. Je lui dis, on t'a pas gagné. Il dit, parce que tu as gagné sur 50%, 55%. Donc les 45 autres pourcents, ils sont contre toi. Donc, parce que tu les as attaqués, en plus ils n'ont pas voté pour toi. Comment tu fais pour faire une communauté avec ça? Tu peux pas. Donc tu dis, on a gagné, sous-entendu. Ils ont perdu. C'est pas, bon, je m'en fous, moi, mais c'est les autres qui ont perdu. Donc comment tu peux dire aimer ta communauté si tu as exclu les autres? Ouais, mais après, c'est la campagne, ça. Excuse-moi, mais tu as des gens qui ont été blessés. Parce que tu as été insultant, presque. Donc je dis, ça va pas. Donc ton règne ne marchera pas. Ça n'a pas raté, il y a eu des bisous. À nouveau élection, 5 ans plus tard. Et puis il me dit, je n'ai pas refait la politique, et puis il me dit, je vais faire ce que tu m'as dit. Donc il l'a fait. Il n'a attaqué à aucun moment l'autre parti. Mais tu as vu, j'ai gagné, j'ai appliqué. Et je dis, ben, ton règne m'a duré. Parce que tu as aimé l'autre. Donc c'est une clé. Et ça, est-ce que j'ai demandé à ce qu'il soit chrétien? Non. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Donc je donne les références. La vérité, non la sécurité. C'est ce que j'ai dit une fois dans une émission radio. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire sur une crise économique? Parce que quand on a une crise financière, on est désécurisé. Mais si vous vivez dans la vérité, elle vous rendra libre. Et cette vérité qui vous rend libre vous donnera une sécurité. Et quand on voit que la plupart des crises financières et économiques qu'il y a eu étaient basées sur des mensonges. Madoff a menti, a fait que des mensonges. Parce que vous connaissez Madoff, vous avez entendu parler de Madoff, qui a dépensé des milliards, enfin qui a gagné des milliards sur rien, grâce à des amis qui lui ont fait confiance, et il a vendu du vent. Vraiment du vent. Il a menti. Et à un moment donné, bing, ça se... Et donc les gens ont besoin de vérité plus que de sécurité. Et ça, c'est un point important. Puis ensuite, le dernier point, qui est le fait de créer, et non de voler. Le principe divin, c'est au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et cette parole a créé. Donc la création et l'esprit créatif est fondamental dans une entreprise, dans une industrie, dans une économie en tant que telle. Dès qu'il n'y a plus de création, c'est une mort. Donc c'est pas la création ne veut pas dire qu'il faut multiplier des idées, mais la créativité va permettre de résoudre d'énormes problèmes et bien évidemment va aussi donner des réponses économiques. Je vous donne un exemple qui est assez courant, hein. La télécommande, vous savez pourquoi elle a été créée, la télécommande, hein. Maintenant on a plein de commandes. Mais la télécommande a été inventée par un ingénieur informatique, un handicapé physique. Il était en chaise roulante. Et pour ceux qui ont connu les télés où il fallait appuyer sur les boutons, hein, où c'était noir et blanc, etc. Moi, j'ai connu ça, les petits jeunes, non? Voilà. Le gars, il en a eu marre. Donc, il a dit, ben, je vais inventer une télécommande. C'est dans le monde entier aujourd'hui. Pour un besoin social purement physique, ça a fait du bien au monde entier. Et c'est devenu une économie en tant que telle.
Il a inventé le zapping en même temps.
Voilà, oui, c'est ça.
Parce que ça, si les gens devaient ça, quoi, se lever...
Alors, un truc plus sympa, vous savez ce que c'est, les bateaux sur les trottoirs? Un bateau, c'est-à-dire le mont trottoir est au même niveau que la chaussée. Hein, et souvent, pour passer les passages piétons. Donc... Je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans les années 70, ça n'existait pas, ça. Mm-hmm. On se cassait la figure, souvent, où les femmes enceintes, les personnes qui avaient du mal à marcher, les mamans avec des poussettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, vous avez fallu faire une grande adresse pour arriver à pousser et à descendre la poussette, etc. Et aussi des handicapés en chaise roulante. Il y a un ingénieur qui a imaginé faire ça. Mais c'est le monde entier à ça aujourd'hui. Il suffit de regarder et de dire, mais tiens, comment je peux répondre aux besoins des gens? Eh bien, d'un coup, la créativité arrive. Comment, et pour vous-même, comment Avez-vous développé votre créativité? Parce que vous avez tous créé quelque chose, à un moment donné. Quand vous avez eu un problème, et ce problème était né d'un besoin, ou d'une frustration. Et donc, il s'est passé quoi? Seigneur, aide-moi, donne-moi des idées, ou donne-moi des solutions, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De créer. Et la parole crée. Ok. Donc, il ne s'agit pas de forcément d'innover, de réfléchir de façon technique, mais de penser création. Et cette création, elle développe. Et il y a des quantités de création qui peuvent développer et faire du bien à l'économie.
Encore une question.
Oui.
Pourquoi
tu as
mis
le
point
5
à la fin?
Exprès. Vous savez que ce n'est pas chronologique, hein. Donc c'est pas ça le premier, puis ça le dernier.
D'accord.
Mais j'aime bien terminer là-dessus, parce que la création, pour moi, est quelque chose de fort. Mais donc c'est pas chrono, hein.
On reste attentif, parce qu'on se met pourquoi il a...
Voilà, c'est la pédagogie. vu l'heure qu'il est, je vais vous montrer, je vais pas tout vous montrer. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner ce PowerPoint, hein, si ça vous intéresse. Donc la perte de confiance, donc ça, je reviens pas, parce que je développe tous ces 12 points dont je vous parlais. Hein. Mais sur la partie du don, c'est qu'on est dans une société qui est en fait, certes en perte de confiance, mais aussi en même temps affamée de dons. C'est-à-dire qu'on a besoin de recevoir. Parce que c'est un des points majeurs de la société, c'est qu'on a besoin de recevoir de l'amour, un cadeau, un bisou, une salutation, une félicitation. Un pardon, etc. On a besoin de dons. Et que quand on a cultivé le principe du don, si je vous parle de don, on parle tout de suite don ONG, bakchiche, cadeau à un pauvre, etc. C'est pas ça le don. Hein. Le don est d'abord une forme d'économie biblique, ou divine, si on peut dire. Le don est, je dirais, le développement de la société, c'est-à-dire le bien-être de la société. Dans l'économie de marché, on a dit on va développer un certain confort. On a développé le confort. C'est-à-dire, grâce à la technologie, on a une habitation confortable. Hein, on a le frigo, on a les toilettes, on appuie sur un bouton, la chasse d'eau, chasse, etc. Ça, c'est inimaginable si vous allez dans certains pays d'Asie ou d'Afrique. Hein. Donc, on a développé le confort. Et ça, c'était ce qu'on appelait le pacte social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a l'économie de marché a conclu, enfin, l'économie libérale a conclu un accord avec, c'est très pernicieux, mais un accord avec les politiciens, c'est-à-dire avec les systèmes économiques, de dire, écoutez, donnez-nous la liberté pour créer ce qu'on veut comme entreprise, gagner du profit, etc. En échange de ça, nous donnerons du travail à tout le monde. Et puisqu'ils auront du travail, ils vont fermer leur gueule, ils ne feront pas de grève. C'est le pacte social. Je raccourcis, hein, mais c'est ça le pacte social. C'est-à-dire que tant que vous avez du boulot, on ne râle pas. Et ça, c'est ça le principe. Or, aujourd'hui, on n'a plus de boulot. Et le pacte social est mis en danger. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de pousser à la croissance, à la performance, et on est en train de vous voler. C'est-à-dire de ne plus parler de don. Or, le don, c'est la clé du développement personnel et la clé de l'économie. Et on est en train de vous voler votre temps, votre énergie, pour vous demander de la performance et de la croissance. Parce que si vous ne réussissez pas dans l'entreprise où vous êtes, vous mettez en danger l'entreprise. J'imaginais. Donc si vous mettez en danger l'entreprise, vous êtes le maillon faible. Donc on va foutre dehors. Donc il faut absolument financer la croissance. Et la croissance, c'est quoi? Ben, c'est plus, plus, plus. Ça devient idiot. C'est comme si vous me disiez, Eric, il faut que tu continues de grandir. Je dis, écoute, je fais 1m85 et demi, c'est déjà pas mal. Je mange comme 3. Je dois croître encore. Pourquoi faire ? Ben, parce que comme ça, on va te nourrir plus, et puis on vendra plus.
Plus, quoi.
Alors, je dis, ok, mais à un moment donné, je vais saturer, je vais grossir. Mais c'est pas grave, on va te faire des plus gros vêtements, ça va faire de l'économie. Oui, mais je vais être malade. Mais c'est pas grave, on va te donner des médicaments. Puis comme ça, on va développer la médecine de soins, pas de prévention.
Proche.
De soins, hein, c'est important. Proche. Vaut mieux soigner que prévenir. Parce que prévenir, vous soignez plus, donc vous dépensez moins. Ça va pas, ça. Vous voyez toute la logique qu'il y a dans une économie actuelle, c'est qu'en fait, on nous formate. Je suis pas un réactionnaire ni un révolutionnaire. Hein. Je suis en train de vous donner simplement des réalités et de dire que ces réalités sont en dépit du bon sens. C'est uniquement du bon sens. Et que quand on développe la croissance, comme on dit, eh bien, c'est-à-dire qu'on va exploiter au maximum un objet ou une personne, ou allons plus loin, la planète. La planète, elle va produire de l'eau tout le temps, elle va produire du pétrole tout le temps, elle va produire du blé tout le temps, elle va produire du miel tout le temps. Non, si on continue comme ça, il n'y a plus d'abeilles. Vous savez ça, hein, 40% du cheptel des abeilles a disparu. Et qu'est-ce que font les abeilles? Elles pollinisent quoi? L'industrie du blé. Merde alors. Mais personne ne veut le voir, on s'en fout. C'est demain ça. Mais donc, quand on se rend plus compte que l'économie fonctionne sur le vol et non pas sur le don, on est en train de d'épuiser tout ce qui est autour de nous. Alors, pourquoi Dieu dit à un moment donné, ce qu'on appellera bien sera mal, et ce sera mal, bien? Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils font le contraire du bon sens. Alors c'est vrai que c'est des débiles, mais c'est pas des méras, des méchants, des démons, etc. Il faut arrêter ça. Il faut lire les Proverbes chapitre 2, la sagesse. C'est tout simplement un manque de sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole est la sagesse. Hein, chapitre 2. Lisez les Proverbes chapitre 2. C'est mon livre de chevet pour l'économie, moi. Proverbes chapitre 2. Donc, on parle de don, je reviens. On parle de donateur financier. Moi, je ne dis jamais client. Pour une entreprise avec que je coach actuellement, pour développer son marché, je veux dire maintenant, on supprime un mot, client, c'est fini. On parle donateur. Ah bon? Et oui. Bon, c'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent. Oui, parce qu'on vend un produit. Non. C'est qu'ils vont donner du temps. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés ou prennent du temps par Internet pour commander un produit. Il y a le don en nature aussi. Mais il y en a un quatrième. C'est ça que je voudrais vous montrer. Donc, le don d'argent, c'est ce qu'on vend. Et voilà, aujourd'hui, baguette 10 francs, point terminé. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de discours, il n'y a plus de temps. Donc, mais seulement, on a pris du temps pour aller acheter la baguette. On a donné son temps. Si, pourquoi, quand vous allez à la COP et que, voilà, Migros, vous avez mis une demi-heure pour y aller, il y a eu des bouchons, je ne sais pas, il y a eu un accident, vous êtes contrarié, enfin, je ne sais pas, vous êtes fâché, vous avez besoin de câlin, enfin, je ne sais rien, n'importe quoi. Vous avez pris du temps, vous achetez votre pain, et puis qu'à un moment donné, la caissière, la personne ne vous dit pas bonjour, et puis elle vous dit « dépêchez-vous, vous m'énervez », vous ne donnez plus rien. Même votre confiance, vous ne la donnez plus. Donc, c'est-à-dire que on peut donner des choses, du temps, de l'argent, même des dons en nature, mais si on ne donne pas sa confiance, ça ne marche plus. Le don de soi, c'est ça, c'est la confiance. Et c'est ça qui va faire que ça va développer toute une forme d'économie. On parlait de confiance ce matin, et ce qui fait que si je me donne, je donnerai l'argent, je donnerai du temps, et je donnerai même des objets. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça, c'est de conseiller à des paroisses, des communautés ou des entreprises. Quand elles ont un problème de sous, je dis, mais qu'est-ce que vous donnez en temps et en confiance? plus une communauté donne sa confiance aux paroissiens et son temps, plus elle gagnera des sous. L'argent est le résultat des autres dons. Parce qu'on peut dire donner de l'argent parce que nous, on se donne, on s'en fout, clairement. Ouais, moi je me donne pour les pauvres, je dis, ouais, c'est bien. Moi, quand j'entends ça, je dis, c'est bien, t'es courageux, moi je ne ferais pas. Ah oui, mais il m'a touché, bah, je vais donner un peu de sous, de toute façon, dans 2 mois, j'ai oublié. Je ne donne pas, c'est pas vrai, je fais un bacchis. Mais si je donne vraiment, je vais investir. Si j'investis, à ce moment, je vais donner, pas 10 francs, je vais peut-être donner 1 million de francs. Peu importe, parce que je fais un vrai don. D'accord ? Et ce don est basé sur la confiance. Si j'ai confiance à l'autre, je vais forcément donner de l'argent. Et même du temps. Et même des objets. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la confiance est le déclencheur de l'économie. La confiance est le déclencheur, en fait, de toute transaction. Si on peut dire. Amoureuse. C'est une transaction. Pour moi, un enfant est normalement le résultat de la confiance. Comme le fait d'avoir une économie florissante. C'est la confiance. Par contre, du fait que dans un certain marketing, on a appris à manipuler et mentir, en disant, vous cassez pas la tête, vous pouvez tout à fait avoir de l'argent sans vous donner... sans donner quoi que ce soit et même pas le temps. C'est-à-dire qu'on va tout informatiser, vous allez voir, c'est super, on a trouvé la technique pour gagner, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on a inversé le processus, on vous oblige à avoir confiance et on vous oblige à adhérer. Parce que si vous adhérez pas et si vous n'achetez pas tel produit ou telle machine ou je sais pas quoi, vous êtes un imbécile. Donc, on vous demande pas d'avoir confiance en l'entreprise. On vous dit que personne n'aura confiance en vous si vous ne faites pas comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? On manipule, c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur ce principe du don. Alors, il nous reste plus trop de temps. Réaction ?
Oui. C'est à quelle heure,
on ne
peut pas ?
Une heure.
Ah, d'accord. Mais on arrête à quelle heure ? Midi, une nuit ?
Midi et demi, je crois.
Midi et demi.
C'est déjà passé.
On va donner du temps pour recevoir.
Voilà. Je vais vous montrer un autre schéma. J'aime bien les petits schémas, moi. C'est plus simple. J'en avais un autre que je vous montrais. Sur donc les principes un peu économiques, toujours, je vais vous montrer ça. Ce que j'appelle là les composantes holistiques du royaume de Dieu, donc je ne mets pas le royaume de Dieu quand je fais des cours en université ou école de commerce, mais bon, je laisse le même terme pratiquement. Mais c'est les composantes holistiques de l'individu, c'est-à-dire que nous sommes, holistique ça veut dire complet, hein, pas holy dans le sens saint, hein, en grec ça veut dire complet. C'est-à-dire qu'on a des composantes qui sont aussi des déclencheurs de toute une économie, une famille, une relation. Toute transaction est basée sur ces 4 éléments. C'est systématique. C'est lié aux besoins aussi. On a un besoin physiologique, manger, boire, dormir, etc. Donc on achète du pain, on construit une maison, on achète un livre, etc. C'est des besoins basiques. On a des besoins émotionnels. L'émotion, qui a souvent été tuée dans l'Église, il ne faut pas crier, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas sauter de joie, il ne faut pas... Enfin, taisez-vous, quoi. On va pas avoir un psy, il n'y a pas de relation d'aide. Donc l'émotion a été tuée pendant longtemps, hein, encore un petit peu, mais bon, voilà. C'est un besoin fondamental. Ce qui fait aussi que par exemple, les jeunes se suicident, c'est parce que leur émotion est complètement bridée, hein, et qu'ils n'arrivent plus du tout à s'exprimer. Ensuite, un besoin spirituel. Et je vous assure que pour moi, la société est en quête de Dieu. J'ai jamais vu une société aujourd'hui autant en quête de Dieu, pas du tout opposé, et un besoin social. Qu'est-ce que ça fait tout ça ? Je vais vous donner une petite histoire très simple. J'ai faim. Je vais dans une boulangerie, donc c'est un besoin physiologique. Ça sent bon en plus, etc. Et puis, je rentre et il n'y a personne dans le magasin. Ça sent un peu mauvais. Normalement, vous devriez sentir le bon pain. Et puis... Mais je sens une mauvaise ambiance. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Puis la personne qui m'accueille, dame ou monsieur, vous venez faire quoi? Je ferme dans 3 minutes. Au niveau de l'émotion, vous êtes un peu brusqué. Est-ce que vous revenez dans cette boulangerie? Ben non. Parce qu'il y a une seule composante qui a été satisfaite, le physiologique. Donc ces 3 autres éléments font que vous ne revenez plus. Dans notre société aujourd'hui, on a tout développé sur le physiologique, éventuellement sur l'émotion, mais rarement sur le social, ou si c'est le social, l'émotion a été occultée. Mais c'est souvent physiologique et manipulé ou boosté par l'émotion, mais le spirituel et le social a été occulté. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez une voiture, vous êtes le meilleur des meilleurs. Mais ça ne crée pas du lien social, ça ne va pas vous aider spirituellement, et puis émotionnellement, peut-être, vous serez très fier, donc ça développe l'ego. Mais disons que tout est accentué là-dessus. Donc on a une sorte d'excroissance de cette partie-là. Et donc, quand on est dans une satisfaction normale, c'est-à-dire que je vais dans un magasin, je vais dans une petite supérette dans mon village, il n'y en a qu'une, le magasin n'est pas très bien entretenu, on pourrait dire que la dame elle est moche, que les produits sont parfois suspects, mais je vais acheter tout le temps chez elle. Pourquoi ? Elle me donne ce dont j'ai besoin, je vérifie la date quand même, mais quand même, ça va. Socialement, je connais tous les potins du village, et puis elle me connaît, elle connaît ma famille, elle me pose des questions, elle me dit « je vous ai écouté à la radio, c'était bien, c'est super », etc. Donc, et puis, quand j'ai besoin d'avoir une information importante dans le village, je lui pose la question. Et puis quand je veux communiquer quelque chose, je lui dis ce que je veux. Voilà, c'est un vrai ou pas. Donc c'est le besoin social, ça c'est très important. Quand elle m'a revu après l'hôpital, elle dit « Ah, mais vous parlez ?» Mais je dis « Oui, mais vous savez, Dieu fait des miracles aujourd'hui, il met la main sur les médecins. Ah oui, ça c'est important la main, oui, c'est vraiment important. » Et oui, la main de Dieu. Ben, oui, c'est la main de Dieu. Puis ça, c'est parti. Hein, c'est tout. Donc, l'aspect social, émotionnel. Parfois, cette dame, elle pleure quand je raconte des trucs. Et puis ça me touche. Et puis, c'est marrant. Enfin, bref, il y a de l'émotion dans cette supérette. Ça me plaît. Et spirituellement, je me sens bien. Et c'est pas simplement que j'évangélise. Mais je parle de Dieu, bien sûr. Mais je parle de Dieu comme je parle des trois autres éléments. C'est-à-dire que c'est une composante qui est intégrée au tout. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, dans l'économie, on parle de fidélisation de clientèle. C'est-à-dire que si vous voulez fidéliser vos clients, fidélisez-les, il faut satisfaire ces 4 points. Et ces 4 points sont très faciles à faire. Donc comment ça se pratique ? Dans le physiologique, donc j'ai mis en bleu ce qui correspond au royaume de Dieu, et sans le royaume de Dieu, en rouge. Donc le physiologique, on va développer le bien-être, parce que le bien-être fait partie, manger, boire, dormir, ça fait partie du bien-être. Dans la société d'aujourd'hui, on est dans la consommation, le bien-être est accessoire. Même si on en parle tout le temps, mais c'est un gimmick, c'est une façon de vous attirer. Ensuite, dans l'émotionnel, on va parler du cœur. Dieu aide votre cœur, Dieu parle au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui la naissance de la vie. Mais dans la société, on va parler de raisonnable. C'est comme une fois j'ai entendu, oui, mais ça se fait pas en église, ça. C'est pas raisonnable. Alors je dis pas que c'est diabolique, c'est sans le royaume de Dieu. Un choix. C'est, voilà. Ensuite, dans le spirituel, on peut parler de foi ou de religion. La bourse est une religion, hein. Une fois, j'ai écrit un article comme ça, qui est passé dans les 24 heures, je crois, où j'ai dit, mais notre Dieu bourse a ses prophètes, et donc je parlais des économistes, qui demandent à ce qu'on fasse des ablutions ou des actes religieux, etc. J'ai pris exactement la même sémantique, mais des gens ont dévoré cet article, ils ont aimé, mais j'ai pas arrêté de parler de religion. C'était super, moi je m'aurais fait régaler à écrire ça, mais en fait, l'homme est foncièrement religieux. La religion est un pouvoir, la foi est un abandon. Donc les gens, de toute façon, cherchent ça. Le New Age, par exemple, ou la parapsychologie, tous ces trucs, ces bouquins qui fleurissent dans les bibliothèques, il y a des chrétiens qui disent « Ah là là, c'est pas bien, c'est le diable, tout ça, mais c'est super qu'il y ait ça !» Pour moi, je trouve ça excellent. Pourquoi ? Parce qu'on remet le spirituel, enfin, sur les rayons. Et donc, à nous, en tant que chrétiens, de parler du royaume de Dieu, et donc pas de mettre Jésus à toutes les virgules, mais de dire que le royaume de Dieu s'applique, et ça fait aussi c'est aussi une partie du monde spirituel. Ensuite, dans le social, on va parler famille. Dans « Sans le royaume de Dieu », on va parler du communautarisme, c'est-à-dire du clan. Et c'est ce qu'on voit dans certains mouvements chrétiens. Il y a les pentecôtistes, il y a les réformés, il y a les garbistes, il y a les machins, personne ne se cause. C'est du communautarisme. Alors, on s'aime bien, on est tous contents ensemble, mais on aime son prochain de loin. Donc, mais c'est du communautarisme. Alors, ça existe, ça se fait, bien sûr, mais c'est sans les clés du royaume de Dieu. Donc, quand on fonctionne comme ça, il y a des résultats. Et je termine sur ces mots. Le royaume de Dieu défini, alors je n'ai pas tout mis, toutes les clés que je ressens, va donner des éléments qui sont plutôt de l'ordre. Ça, c'est très suisse. Mais sans le royaume de Dieu, on est dans la confusion. C'est plutôt confus, on ne sait plus trop où on va. C'est ce qui se passe actuellement dans les communes. On ne sait plus trop où on va. J'ai donné une fois une conférence au centre patronal à Lausanne. Il y avait 150 entreprises. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais on va droit dans le mur. » Je dis « Oui, et alors on fait quoi ?»« Ben, on ne sait pas. » Ils ne savent pas, ils sont paumés. C'est la confusion. Donc, ensuite, dans le royaume de Dieu, ça nous permet d'avoir quoi ? De la créativité. Et sans le royaume de Dieu, on n'est pas créatif, on est dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'on va absolument s'accrocher à l'autre. J'ai besoin de laïc, j'ai besoin d'être riche, j'ai besoin d'être surprotégé. On est dans une dépendance totale. Ensuite, dans le royaume de Dieu, on a ce qu'on appelle l'abondance. L'abondance, c'est quelque chose d'important. Et sans le royaume de Dieu, on est dans la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, pour moi, je dis aussi clair que ça, c'est diabolique. La pauvreté n'existe pas dans le royaume de Dieu. On sort de la pauvreté. Comme la maladie, ça n'existe pas. Moi, quand je suis allé à l'hôpital, je dis au médecin, la première chose qu'il m'a demandé, quel est votre besoin ? Je dis une chose importante, ne me prenez pas pour un malade. Je suis un handicapé passager. Mais je ne suis pas un malade. Je ne veux pas le statut de malade. Comme je ne veux pas, il ne faut pas qu'on définisse les pauvres. Parce que si vous parlez à un pauvre comme un pauvre, vous lui donnez ce statut et il s'en sort plus. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut lui parler plutôt de l'abondance. Dans le service, on parle du service, bien sûr, dans le royaume de Dieu. Et dans le sang, le royaume de Dieu, on va parler davantage de prendre. Et enfin, dans le royaume de Dieu, on parle de multiplication, et ça, je l'ai déjà dit, on parle de l'addition. Donc, voilà, quelques clés. Je ne vais pas tout donner, tout dit. On va arrêter là, mais si vous avez des questions encore maintenant, sinon repas si vous voulez.
Techniquement, comment on peut l'obtenir, vous avez dit
Alors le mieux, vous m'envoyez un mail, je vais vous mettre mon nom. Donc c'est Eric Jaffrin, en un seul mot, pas de. En minuscule, et c'est Blouin. Blouin, moi c'est.
Quand on n'a pas d'ordinateur.
Oh là! Faut m'écrire, hein, puis je vous envoie un papier.
Oui.
Je vous laisse ma carte.
Merci.
Merci.